Bonjour à tous. Voilà, dans l'église où nous étions, le culte commençait à 10h et certaines familles arrivaient à midi moins le quart avec bébé, poussette et tout, et puis à l'entrée, et puis ça va ta belle-mère, ça va bien, oui. Alors donc, voilà, je pense que ce n'est pas réservé à Gabi Lair. Ce n'est pas une excuse, hein. Mais voilà. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mais d'abord, je voudrais vous poser deux petites questions. Alors, je voudrais que vous me disiez quelle est la différence entre le champ visuel d'un aigle et celui d'un poulet ? C'est des oiseaux tous les deux. Ouais. Voilà, mais j'aimerais que vous puissiez me dire quelle est la différence entre ce qu'ils voient de là où ils sont. Alors, s'il vous plaît, parlez bien fort parce que j'ai des vieilles oreilles qui n'entendent pas bien du tout. L'aigle voit de très loin, oui, exactement. Et il se tient très haut. Il a de très bons yeux. Ah, ça, je ne lui ai pas demandé. L'autre jour, nous sommes allés au Grand Ballon, on avait des amis à la maison, nous sommes allés au Grand Ballon et à un moment donné, je pense que c'était peut-être un faucon mais alors il est arrivé à une vitesse, j'ai cru qu'il allait s'écraser sur la voiture. Non, mais il avait dû voir quelque chose qui l'intéressait sur le bas-côté, mais alors avec une vitesse, il a fait vloup vloup et avec son machin il est reparti. Bon, il a de très bons yeux. Bon, je ne sais pas au niveau des couleurs, hein, je ne saurais pas vous dire, je n'ai jamais été aigle dans une autre vie. Et le poulet? Ah. Oui. Oui, exactement. Hein. Donc, si on résume, on se dit que l'aigle plane au-dessus de toute une région et son regard perçant le dirige vers le meilleur garde-manger. Le poulet, lui, il est limité par les murs de la cour de la ferme. Hein, sa pitance, c'est juste ce que la fermière va lui donner, et puis les quelques vers de terre qui ont eu l'imprudence de ne pas s'enfoncer assez loin dans le sol. Voilà. Donc, au niveau du menu, je pense que quelque part, l'aigle a un meilleur restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je pense aussi. Alors maintenant, une deuxième question. Quelle est la différence entre la volonté de Dieu et notre volonté ? La mienne, la tienne, celle de chacun ? Le débat est ouvert. Vas-y. Dieu s'occupe du monde et nous, on s'occupe que de nous-mêmes. Mais est-ce qu'on n'est pas, on ne fait pas partie du monde ? Ça veut dire que Dieu s'occupe aussi de nous. Voilà, donc, autre chose. Vas-y. Oui. Hein, donc là, on revient un peu en arrière. Hein, mais par rapport à notre volonté et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. Ça, c'est un sacré défi, hein, pour nous qui sommes malheureusement imparfaits. C'est tout, personne n'a d'opinion. Pourtant, il fait frais ce matin. Enfin, il fait moins chaud. Oui? Voilà, alors ça peut être intéressant. La volonté de Dieu, c'est qu'il pleuve quand la nature en a besoin, tandis que notre volonté, c'est qu'il pleuve quand nous, on n'est pas en vacances. Tant pis pour les autres qui sont en vacances. Ça c'est intéressant, parce que ça relève de quoi ? De notre ego un peu... Merci. Oui ? Oui, c'est ça. Alors, il est sa vision à lui, elle est illimitée, tandis que nous, on est limité par nos sens, parce que nos sens perçoivent. Bon, alors, je vais vous dire ce que moi j'ai noté. Dieu a un projet, une destinée pour chacune de nos vies. Sa vision panoramique ne se limite pas aux quatre murs de la cour de notre quotidien. C'est exactement ce que tu viens de dire. Alors, il n'est pas motivé, ce que tu as dit aussi, par un ego surdimensionné ou par une mauvaise image qu'on peut avoir de soi. Hein. Vous savez, des fois, il y en a qui se prennent pour « I am the best in the world ». Pardon pour mon accent. Et il y en a d'autres qui disent « Oh non, vous savez, c'est la fausse humilité, je suis juste le petit ver de terre ». Ça, Dieu, dans sa volonté, ces paramètres-là n'existent pas. Et il voit nos vies alors que nous ne sommes qu'une petite graine dans le ventre maternel jusqu'à notre blanche vieillesse. Et il sait comment les utiliser à condition que nous le laissions faire. Marion, est-ce que tu penses que... Elle est là, Marion ? Oui, je l'ai vue. Est-ce que tu penses que Dieu sait déjà ce que va faire ton petit Junior ? Oui. Bien. Il a un projet pour Junior. Est-ce que vous voyez Junior, vous ? Non, pour l'instant, on voit juste l'HLM de Junior. J'aime bien... Quand j'étais avec des CM2, une fois, on a fait les sigles, une leçon sur les sigles, et j'ai demandé ce que voulait dire HLM. Et il y en a un qui m'a dit « Habitation louée maternellement ». J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, Marion est un HLM pour l'instant. Avec beaucoup d'amour, Marion, hein, ça n'a absolument rien de... Donc, même pour Junior qui n'a pas encore mis le nez dehors, eh bien, Dieu a un plan. À condition que Junior le laisse faire plus tard. Nous nous fixons des objectifs qui nous semblent honorables et qui correspondent à des rêves qui sont nos rêves, pas forcément les rêves de Dieu. Nous sommes parfois capricieux et inconséquents dans nos réactions, parce que nous voulons tout contrôler. D'accord, ouais, ok Seigneur. Mais là, tu vois, je voudrais que tu recoupes un petit peu. Là, j'aimerais bien que tu peignes ça un petit peu plus clair. Là, voilà. L'être humain en général est champion de la victimisation. Ça a commencé avec Adam et Ève. Hein. Quand Dieu est arrivé dans le jardin, il les a appelés parce qu'ils se cachaient, ils leur ont dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Qu'est-ce que tu as fait, Adam ? Adam a dit « Ah, c'est pas moi, je suis victime de la femme que tu as mise à mes côtés. » Autrement dit, comme c'est toi qui l'as mise à mes côtés, je suis ta victime. Et Ève, il dit « Alors Ève, explique. » Et Ève a dit « Oh, mais c'est pas ma faute, c'est le serpent. » Et ça, on est assez fort pour ce genre de choses-là. Et parfois, nous faisons aussi preuve d'un entêtement qui nous empêche de voir ce qui est le mieux pour nous. J'étais toujours frappée par... vous savez, je n'ai pas vécu au Moyen-Âge, comme me disaient parfois mes élèves. Est-ce que tu as connu Jules César, toi ? La chronologie, des fois, dans la tête des petits, ce n'est pas toujours ça. Hein. J'ai connu l'époque où, dans les campagnes, on n'avait pas forcément de voiture. Et on montait dans la charrette et clipiti-clipiti-clipiti-clop, le cheval nous amenait. Et j'étais toujours malheureuse quand mon grand-père mettait des œillères. Je disais, mais il ne voit rien avec ça. Et il me disait, mais justement, c'est pour qu'il ne voit que la route. Alors les œillères de Dieu, elles peuvent être bonnes pour nous, parce qu'on voit juste son plan. Mais quand nous nous mettons des œillères et que nous ne regardons pas le plan de Dieu, alors là, hein, on passe à côté de tellement de bénédictions. Dieu ne nous emprisonne pas dans une longue liste d'interdits bibliques. Un jour, mon fils m'a dit, maman, il avait 8 ans, on est passé devant une synagogue à Fontenay, et puis il me dit, maman, il y a des gens qui fument. Pourtant, dans la Bible, c'est interdit qu'il ne faut pas fumer. C'est écrit qu'il ne faut pas fumer. C'est interdit de fumer. J'ai dit, écoute, moi, je n'ai jamais vu que c'était écrit. Mais j'ai dit, est-ce que c'est bon pour toi de fumer ? Si, par exemple, j'anticipais, parce qu'il avait 8 ans, mais je me disais que ça allait venir vite. Je lui disais, mais est-ce que tu penses que c'est bon de fumer ? Il me dit, oh non, ça brûle le dedans. Bon, mais j'ai dit, souviens-t'en alors. Hein. Donc, voilà. Hein, donc, 1 Corinthiens 10, 23 nous dit ceci, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » La Bible ne nous interdit rien, mais elle nous laisse décider de ce qui nous construit ou de ce qui nous détruit. Nous devons muscler notre volonté pour pouvoir nous entraîner dans la même salle de gym que Dieu entraîne sa volonté. Voilà. Ça, on a vraiment besoin de travailler à savoir dire ça, non, je ne ferai pas parce que c'est mauvais pour moi. Nos cœurs doivent devenir des inconditionnels de la volonté divine et refuser tout ce qui se mettrait au travers de sa direction dans nos vies. Vous savez, vous connaissez tous Jacques 4, 7. Allez, citez-moi Jacques 4, 7. Voilà ce que j'entends. Alors peut-être que c'est mes oreilles, mais peut-être que vous pouvez articuler. Le premier mot, soumettez-vous. Voilà. Soumettez-vous donc à Dieu, acceptez de faire sa volonté, et courez devant le diable, parce qu'autrement il va vous rattraper. C'est ça qui est écrit dans votre Bible ? Non, c'est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Vous savez, le diable, si vous lui faites comme ça, ça ne va pas l'intimider. Hein. Résister, ça, moi, ça me fait penser à la force, à quelque chose où on s'arc-boute et qu'on s'installe solidement. C'est pas, Alors, ma volonté ou la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Ne dites rien. Est-ce que vous voulez un petit exemple biblique ? Oui ? Vous savez que j'aime les histoires. Et l'Ancien Testament raconte des histoires passionnantes. J'aime l'Ancien Testament. Des fois, j'ai un peu de mal à m'en détacher. Un de ces personnages qui m'a toujours intriguée par ses réactions, et je ne comprenais pas vraiment cette histoire-là, j'aimais la lire, mais voilà. Bon. Alors, quand j'ai été opérée, lors de ma convalescence, j'étais immobilisée. Je ne pouvais rien faire dans la maison, donc j'ai beaucoup lu. J'ai fouillé, j'ai cherché. Et j'ai trouvé des réponses à mes questions concernant ce monsieur de l'Ancien Testament. Et je voudrais les partager avec vous. Alors, je vais planter le décor pour que vous puissiez vous situer dans le contexte. OK ? Monsieur Balaam était un prophète. Il connaissait la voix, V-O-I-X, de Dieu. Et les voix, V-O-I-E-S, du Seigneur, ne lui étaient pas étrangères. Monsieur Balak, lui, régnait à l'époque sur le peuple de Moab et de Madian. Tous les hommes de ces royaumes et leurs familles étaient terrifiés parce qu'un peuple, le peuple d'Israël, marchait vers leur pays. On racontait des choses terribles le concernant. N'avait-il pas dépouillé les Égyptiens ? Traverser la mer Rouge à pied sec, ça, fallait le faire quand même. Hein ? Assurément, ils étaient protégés par une puissance surnaturelle. Les Égyptiens, dont la culture et la technologie étaient mondialement réputées, s'étaient vus malmenés par ce peuple, alors qu'au départ, ils étaient leurs esclaves. En une seule nuit, tous les premiers-nés égyptiens étaient morts. Il faut le faire. Ça ce n'est pas quelque chose d'humain. Ces gens-là, ils n'étaient pas humains, il y avait un problème. Et les Amoréens, un peuple voisin de Moab, avaient eux aussi, malgré leur résistance, fait les frais de la puissance inexpliquée d'Israël. Bref, il ne faisait pas bon croiser le chemin de ce peuple, à moins d'être suicidaire. Ce n'était pas bon d'aller au-devant de leur armée. Or, les Israélites étaient là, droit dans leurs bottes, aux portes du royaume de Balak. Les habitants étaient pétrifiés de peur. C'est alors que le petit doigt du roi Balak lui a parlé d'un prophète nommé Balaam. On disait que lorsqu'il bénissait une personne, cette personne croulait sous les richesses, les bonnes choses. Mais lorsqu'il maudissait quelqu'un, alors là, c'était les catastrophes qui déferlaient dans la vie de cette personne qu'il avait maudite. « Eureka !» se dit Balak, « voilà la solution à mon problème. Je vais le faire venir pour qu'il maudisse ce peuple invincible et hop, à moi la victoire. » Il écrivit un message à M. Balaam qu'il fit porter par plusieurs de ses chefs avec les cadeaux, bien sûr, important les cadeaux. Il fallait. On lit ça dans Nombre 22, chapitre 22, verset 6. Voici ce qu'a écrit Balak. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi, encore il n'est pas sûr, hein, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. » Donc voilà, la caravane s'en va, ils arrivent chez Balaam, toc, 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 ou non plutôt Dream, on va dire que Balaam était moderne. Hein, et voilà, ils expliquent leurs problèmes. Et bon, Balaam était quelqu'un de bien élevé. Donc, ils les invitent à passer la nuit chez eux, réservant sa réponse pour le lendemain matin. Il avait prévu une petite conversation avec Dieu pour négocier un hypothétique visa divin en vue de ce voyage. Il n'était pas très sûr. Hein. En plus, c'est Dieu qui a engagé le dialogue. Qui sont ces hommes, Balaam ? Aïe, 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 aïe. Ça ne se présentait pas sous les meilleurs auspices. Balaam, tu ne pensais vraiment quand même pas me demander si tu devais les accompagner pour maudire un peuple qui est mon peuple ? Pourquoi me poses-tu la question ? La réponse est évidente, non ? J'imagine Balaam. Il ne devait pas être à l'aise dans ses baskets. Et cette situation, nous la vivons parfois aussi. Sommes-nous pas tentés de demander à Dieu des réponses alors qu'elles sont évidentes dans sa parole ? Par exemple, est-ce que je dois venir au culte ? Est-ce que je dois donner ma dîme ? Est-ce que, Seigneur, j'ai un bon bouquin là, est-ce que je suis obligée de lire ma Bible ? Seigneur, est-ce que je dois déclarer tout aux impôts ? Tu sais, c'est des voleurs, hein, tu le sais, toi qui connais tout. Je ne peux pas peut-être un petit peu grignoter, sans parler de tous les choix personnels et intimes. Je ne citerai pas parce que vous les connaissez, vos choix personnels et intimes. Et on fait parfois cela. Vrai ou pas ? Bon, il n'y a que moi. Merci. Pour être sûr que la situation soit réglée une fois pour toutes, Dieu met les points sur les i pour Balaam. Ok Balaam, puisque tu sembles ne pas avoir compris, ou plus exactement, puisque tu n'as pas eu envie de comprendre, je vais te donner une réponse parfaitement claire. Nombre 22:12, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Bonne nuit Balaam. Enfin ça y est pas, dans le nombre. Cette réponse avait le mérite d'être limpide. Voilà. Là, franchement, il n'y avait plus de doute. Il n'aurait plus dû y avoir de doute. Et voici la réinterprétation de Balaam. Le lendemain matin, il s'est présenté devant les visiteurs, la tête en forme de citron, vous savez. Comme ça. Balaam se leva de bon matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Nombre 22:13. Balaam se pose en victime de la parole de Dieu. Il dit en quelque sorte, j'aurais tellement aimé aller et satisfaire à la demande du roi Balak, mais voilà, je n'ai pas le droit, je suis le prophète. Ben oui. Mais c'est aussi notre réaction face à des situations du type, tout le monde le fait Seigneur. Alors que la Bible condamne ces situations-là. J'ai parlé avec tellement de jeunes quand nous étions sur Fontenay, par rapport au fait d'avoir une relation intime avant le mariage. Mais maintenant, c'est plus comme de ton temps. C'est vrai que moi, j'ai connu Jules César. Maintenant, tout le monde le fait. Alors, qu'est-ce que j'ai l'air bête, moi, si je ne le fais pas. Ça, c'est terrible. C'est vraiment quelque chose qui détruit nos vies et qui détruit l'Église. Donc, les visiteurs sont partis depuis longtemps, mais Balaam continue peut-être à marmonner dans sa moustache sur le manque de liberté de sa profession, regrettant de ne pas avoir adhéré au SNP, le syndicat national des prophètes. Eux, au moins, ils m'auraient conseillé pour trouver un compromis. Ah, le compromis. On aime le compromis. Seigneur, si tu me laisses faire ça, je te promets qu'après... Promets, je ne te demanderai plus jamais rien, Seigneur. Juste, tu vois, si tu peux arrondir un petit peu l'angle là, comme ça. Nous sommes des spécialistes du compromis. Enfin, nous, les êtres humains. Bon, tout ça, ça relève de mon imagination. Je ne sais pas s'il a dit ça, mais voilà. Je pense quand même qu'il n'a pas dû accepter ça, la bouche en cœur. Et le roi de Moab, lui, quand son équipe est rentrée, il a dit, ah, mais ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un à qui on refuse d'obéir. Je suis le roi. Et on m'obéit. Et vous savez, celui qui nous chatouille par ses tentations, il ne va pas non plus lâcher le morceau si facilement. Il va revenir à la charge. Et à la charge, il va essayer de nous avoir à l'usure. Donc, quelque temps plus tard, une nouvelle délégation sonne à la porte de M. Balaam. Avec encore plus de cadeaux et de promesses de promotion dans ses bagages. Oh, mais quelle torture pour Balaam, parce que bien sûr, Dieu allait encore dire non, et que lui, pauvre prophète, subissant l'étroitesse d'esprit de son maître, allait passer à côté de choses super, et que blablabla, 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 blablabla. Le diable était déjà rusé à l'époque. Il avait étudié la vie de Balaam, et il savait que ce prophète nourrissait un désir malsain d'avoir des richesses, de se faire un nom, d'être reconnu. Et il s'est servi de Balak. Le diable est encore rusé aujourd'hui, c'est biblique. Donc il nous connaît à fond et il sait ce qui est fragile chez nous. Et c'est par là qu'il va nous tenter, nous séduire. Oh, il va pas nous faire du rentre dedans forcément. Mais il va utiliser des situations ou des personnes très honorables qui vont dire des choses très sensées. Parler un langage qui va dans notre sens, que nous avons envie d'entendre. Donc, Balaam met les mains devant ses yeux pour ne pas voir tout ce à quoi il va devoir renoncer s'il dit non. Peut-être qu'il y avait un écran plat, vous savez, les grands incurvés là. Peut-être qu'il y avait une voiture électrique, je ne sais pas moi ce qu'il y avait dans ces cadeaux. Mais c'était terrible pour Balaam. Et voici ce qu'il répond. Avec un ton hyper, vous savez, de courageux sacrifié, vous savez, quand on va vers le sacrifice, comme ça. Il répond ceci. « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire. Sous-entendu, je n'aurais pas le droit, je n'aurais pas l'autorisation. Je ne pourrais rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Nombre 22-18. Ah, oh, qu'est-ce qu'il était bien ce prophète, obéissant et tout, et tout, et tout. Oh là là. Mais n'était-il pas plutôt résigné à subir une nouvelle interdiction divine? La preuve, c'est qu'il n'a pas dit à l'équipe qui le visitait, vous savez, vous avez un hôtel là-bas, vous pouvez dormir cette nuit puis repartir demain matin et fermer définitivement sa porte à la tentation. Non, non, il a atermoyé. Et il les a invités à rester une nuit encore. Sait-on jamais que Dieu change d'avis, d'ailleurs. Hein, peut-être que la première réaction divine était de faire patienter Balaam en vue d'une prime plus importante. Nouveau dialogue, Balaam-Dieu. Dieu. Ah, ils sont revenus. Et que veulent-ils cette fois, Balaam? Ben, toujours la même chose. Je peux y aller, s'il te plaît, je peux y aller, je peux y aller. Dieu. Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Vous savez ça dans Nombre 22-20. Oh, tout ce que tu veux, Seigneur, tout ce que tu veux. Coup de théâtre. Hein? Bon, j'avoue que là, j'ai commencé à ne pas comprendre. Quand je lisais l'histoire de Balaam, je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait changé d'idée comme ça. Mais bon, et je n'étais pas au bout de mes surprises. Évidemment, Balaam s'empresse d'obéir à Dieu. Le lendemain matin, hein, il va speeder tout le monde. Et tant pis si ses invités avaient envie d'un deuxième petit café. Allez, allez, on y va, on y va. Est-ce que je ne suis pas payé pour faire la volonté de Dieu? L'ânesse de Balaam était scellée et elle attend patiemment devant la porte. Enfin, son maître saute sur son dos et ouf, ça y est, on est parti. Balaam devait jubiler intérieurement, même s'il ne comprenait rien à ce qui se passait. D'ailleurs, il n'a même pas cherché à comprendre, parce que ça allait dans le sens qu'il voulait. Il avait la permission de Dieu, il avait la permission de Dieu, nanananer, hein. C'est génial. À moi les cadeaux, les promotions, le poste élevé. Pendant ce temps, Dieu a une réaction étonnante. Nombre 22-22 nous dit « La colère de Dieu s'enflamma contre lui parce qu'il était parti. » Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle incompréhension de ma part. Balaam obéit sagement à ce que Dieu lui a dit la nuit précédente et voilà qu'il se met en colère contre lui. Mais comment faut-il interpréter cela? Je pense que si on revient à nous, hein, plusieurs d'entre nous, nous avons certainement vécu des choses semblables. Savoir dans notre cœur que Dieu veut pour telle ou telle décision, ce que Dieu veut pour telle ou telle décision, mais continuer à prier dans l'espoir qu'il harmoniserait sa réponse à notre désir le plus cher. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Et quand on croit avoir entendu un petit oui murmuré, on fonce tête baissée au cas où, et Dieu dans tout ça. Balaam n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions. Il ne s'est pas dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a changé d'idée? Il ne s'est pas posé de questions. Il était juste trop content. Peut-être qu'il s'est dit, ah, chouette, j'ai eu raison de prier une deuxième fois. Hein? Comme quoi ça peut marcher. Nous savons tous que Dieu n'est pas schizophrène, il ne change pas d'idée comme ça. Alors pourquoi cette réaction? Si nous désirons, comme Balaam, tellement quelque chose que Dieu nous ait parlé à ce sujet, mais que nous nous accrochions toujours aussi fort à notre rêve, bien souvent Dieu va nous l'accorder. Ça s'appelle la volonté permissive de Dieu. même s'il sait que ce n'est pas le meilleur pour nous, et nous devrons vivre les conséquences de cette persévérance mal ciblée. Nous avons des enfants pour la plupart, et quand on dit « ne touche pas là, tu vas te brûler », touche pas, tu vas te brûler, c'est chaud, ne touche pas, tu vas te brûler. Mais en fait, l'enfant a vraiment envie de voir si c'est vrai que ça brûle. Donc, il va finir par mettre la main. Alors, nous, en parents très moralisateurs, on va dire « je te l'avais bien dit ». Ben, quelquefois, avec Dieu, on fait la même chose. Alors, dans notre quotidien, nous avons plein d'exemples comme ça. Vous savez, il y a quelques mois, enfin non, ça fait plus d'un an maintenant, j'étais sollicitée pour intervenir dans une situation délicate, et je sentais le feu rouge de Dieu dans ma vie, dans mon cœur. C'est pas ton truc, n'y va pas. C'est pas à toi de faire ça, n'y va pas. Puis les personnes qui m'ont demandé, ah mais on compte tellement sur toi, tu es vraiment la personne, je pense, qui est la plus qualifiée, vraiment tu vas t'en sortir, on compte sur toi, tu as toutes les qualités pour, et patati patala. Finalement j'ai dit oui. Et je m'en suis sortie avec des blessures, non seulement dans ma vie, mais des blessures aussi pour les personnes auprès desquelles j'ai essayé d'intervenir. Quand on a un feu rouge de Dieu, ne faisons pas comme Balaam, ne partons pas, ne courons pas. Mais sachons nous arrêter et dire, Seigneur, pourquoi ? Attends, explique-moi pourquoi. Je veux comprendre pourquoi je ne me sens pas bien là, je ne suis pas à l'aise. Donc. Et tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, on a vu ça aussi, hein, ils voulaient des choses. Ça a commencé par il y a eu les espions, vous allez traverser le pays là. Ah ben non, il y a des géants, non, mais je vais vous protéger. Ah non, il y a des géants, ok, vous allez faire le grand tour, ça a duré 40 ans. Après, ah cette manne, elle me sort par les trous de nez. On veut de la viande, de la bonne viande. Ok, vous voulez de la viande. Dieu leur a donné la viande. Ils ont tous été malades. Dieu leur a donné. Après, ils voulaient un roi. Mais je vais vous guider, moi. Non, on veut un roi comme tous les peuples. On veut un roi, quelqu'un qu'on voit. C'était comme pour le veau d'or, d'ailleurs. Ils ont eu un roi qui les a embarqués dans des histoires pas possibles. Le fils prodigue, son père lui disait, mais tu as tout. Ah non, moi je vais aller voir ailleurs. La chef de M. Seguin, on n'est pas dans la Bible, mais c'est pareil. Hein. Donc retrouvons M. Balaam sur la route de tous les espoirs, sifflotant sur son ânesse. Alors je ne veux pas le faire parce que je ne sais pas siffler. Tout à coup, cette dernière, effrayée par quelque chose, fait une embardée et coince les babouches neuves de son maître contre la paroi rocheuse qui borde le chemin. Oh, Balaam redescend rapidement de son nuage jusque dans la vraie vie. La douleur au pieu le rend furieux et il frappe sa monture avec colère pour lui faire reprendre la route. Pauvre Agnès. Quelques instants plus tard, rebelote. La chose effrayante, dans l'occurrence un ange armé d'une épée, barre de nouveau la route dans un endroit stratégique très étroit. L'Agnès panique, elle se couche sur le sol et elle fait tomber Balaam, le vire. Il est tellement fâché qu'il commence à la frapper, aveuglé par sa colère. Tout allait si bien, mais pourquoi cette sale ânesse vient-elle tout fiche par terre? Parfois dans notre vie, on a l'impression que tout va si bien, puis il y a un couac. On se demande pourquoi le couac. Posons-nous les bonnes questions. Et il frappe. Alors, chose incroyable, l'ânesse lui demande des comptes. Que t'ai-je fait? Pourquoi tu m'es frappé déjà 3 fois? Et Balaam, très maître de la situation, lui répond. Mais Balaam, c'est ton ânesse qui te parle, mais ça ne t'étonne pas? Non. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Et si j'avais une épée dans la main, je te tuerais un instant. Mais Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Ah ben non, t'as raison. Et à ce moment-là, Balaam a vu l'ange. Et il a entendu aussi ce que l'ange a dit. Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. Alors, je ne connais pas la topologie géographique du chemin qu'a emprunté Balaam. Je ne sais pas si c'est un vrai précipice ou si c'est un précipice spirituel, Mais parfois, Dieu nous arrête avant qu'on tombe dans le précipice. Il n'a pas envie qu'on y tombe. L'ânesse m'a vue et elle s'est détournée de moi déjà 3 fois. Et si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais tuée et je lui aurais laissé la vie. Ouh là 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 là. Il rigole pas, l'ange. Hein, vous trouvez tout ça dans le Deutéronome 22, entre 28 et 33. Pourquoi Balaam était-il inconscient de tout ce qui se passait autour de lui ? C'est parce qu'il était omnibulé par les richesses qui lui ouvraient grand les bras. Il ne voyait que ça, il ne pensait qu'à ça. Et quand nous sommes hantés par un rêve qui prend la place de la volonté de Dieu, nous sommes complètement fermés à tous les avertissements sous toutes les formes. Dieu ne nous parlera pas forcément par la bouche d'une ânesse. D'ailleurs, qui est-ce qui a une ânesse chez lui là ? Donc, bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc, il ne nous parlera pas par une ânesse, mais il nous parlera autrement. Alors, si votre voiture super perfectionnée se met à vous dire des choses, voilà, réfléchissez. Hein, comment pourrons-nous entendre si nos oreilles physiques et spirituelles sont remplies des sons de ce que nous idéalisons ? On est tellement parfois partis dans nos délires qu'on n'entend plus Dieu. On ne voit plus Dieu. On ne comprend plus Dieu. Mais pourquoi ? Mais c'est très bien ça, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu reproches à ce projet ? Parce que toi, tu as un poulet, tu vois juste là. Moi, j'ai le regard de l'aigle. Je vois plus loin. Et si on arrêtait là le récit de Balaam et que je vous demande de proposer une suite, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Balaam ? Bon, l'ânesse lui a parlé, l'ange lui a parlé. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait ? Demi-tour. Bon, moi, je crois que j'aurais fait demi-tour et je ne serais pas revenue, hein, parce qu'une expérience m'aurait suffi. Est-ce qu'il y a d'autres avis ? Tu penses que Dieu peut changer d'avis sur quelque chose ? C'est pas pareil. Quand toi, tu t'arrêtes, mais quand Dieu t'arrête. Hein, là, c'est Dieu qui avait arrêté Balaam. Moi, à sa place aussi, hein, j'aurais senti que ça sentait le roussi et j'aurais fait marche arrière. Mais non, ou juste un petit soupçon de remords. Hein. Voilà ce que dit Balaam, Nombre 23, 34. J'ai péché. Je pense qu'il dit ça en parlant des coups qu'il a donnés à son ânesse. Car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, j'aime bien ce petit mot, si j'ai mal agi, sait-on jamais, hein, si j'ai mal agi à tes yeux, je m'en retournerai. Je suis à nouveau résigné. Hein. Le vieux Balaam reprend le dessus. Hein, je me soumettrai encore à tes idées et tout ça et tout ça. Hein. Vraiment, Balaam, mais qu'est-ce qu'il te faut ? L'ânesse qui parle, l'ange qui descend sur le chemin, et tu continues à courir après ce que tu désires ? Oh, une petite réserve, hein, si j'ai mal agi, mais c'est juste du politiquement correct. Hein. Ton habilité te rend insensible à la discipline divine. Balaam ne voyait que les richesses. Que voyons-nous, nous ? C'est exactement ce qui se passe pour nous lorsque nos désirs comptent plus que notre obéissance à Dieu. Nous nous sentons limités par ce que Dieu attend de nous. Limités. On se dit, mais finalement, l'aigle, c'est moi. Moi, je vois plus loin parce que je pourrais faire ceci, puis après, je pourrais faire cela. Et puis, vous connaissez la laitière et le pot au lait ? La fable de la fontaine. Hein ? Elle allait au marché, portant sur sa tête un petit pot de lait qu'elle allait vendre au marché. Elle s'est dit, avec le lait, j'achèterai des œufs. Avec les œufs, j'achèterai des poulets. Après, je vendrai les poulets, j'achèterai un cochon. Et puis, elle n'a pas vu la pierre qui était devant ses pieds. Elle a trébuché, le lait est tombé, il s'est répandu. Adieu, vos vaches, cochons, couvées. Hein, ben, parfois, nous faisons pareil. Nous ne voyons plus rien. Hein, on se sent limité parce que Dieu attend de nous, mais lui, il sait ce qu'il veut pour nous. Il faut vivre avec son temps, disons-nous. Et nous interprétons la parole de Dieu avec un filtre modernisant. Hein. Nous remodelons les choses que Dieu demande pour les faire ressembler à ce que nous désirons. Et ensuite, on dit, voilà Seigneur, j'ai fait un projet là. Tu veux bien signer en bas de la page là ? Hein ? Mais c'est ça qu'on fait. Dieu ne m'interdit rien. Il me laisse choisir, mais il m'explique ce qui réjouit son cœur. Si je choisis une autre direction, hein, mes envies, mes choix poussent Dieu sur le côté et prennent toute la place. je ne pense plus qu'à cela, je ne travaille plus que pour cela, et pour arriver, je ne réalise plus que je prends la place du pilote. Vous vous rappelez Hachim avec sa chaise, ses chaises. Vous savez, la grande chaise pour Dieu et la petite chaise pour nous. Donc on a vu tout à l'heure, le peuple d'Israël, il a expérimenté cela. Dieu leur a accordé ce à quoi ils aspiraient tant. Mais les conséquences ont été difficiles à vivre. Alors j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que d'après les chercheurs, maintenant, si on pouvait fabriquer la manne, c'est un aliment tellement complet qu'on aurait besoin de rien d'autre. Quand même, hein, ce Dieu, il est quand même étonnant. Hein. Par contre, le peuple, il était un peu... Il avait des grosses œillères. Hein. Ensuite, Dieu, dans son projet, avait pourvu à leurs besoins, aux besoins du peuple d'Israël, à leur sécurité. Il savait qu'il y avait des géants dans le pays qu'il devait traverser. Mais il était là, lui. N'était-il pas plus fort que les géants? Est-ce qu'il n'avait pas fait traverser la mer Rouge à pied sec? Est-ce qu'il n'avait pas fait sortir l'eau du rocher? Ah ben non, il y avait des géants. Et les géants, ça, on n'en veut pas. Hein. Il avait clairement exprimé sa volonté, mais le peuple désirait autre chose. Et si nous ne nous soumettons pas, nos désirs à Dieu, ils nous conduiront loin de lui, et quand nous en prendrons conscience, le mal sera fait. Il se peut même que Dieu nous accorde ce que nous désirons, et nous crierons victoire en nous engouffrant dans ce qui nous semble être une porte ouverte par Dieu. Le problème, c'est que plus ou moins loin derrière cette porte, il y a un mur que Dieu aurait voulu nous éviter de prendre. Et nous voyons 36 chandelles après un choc que nous n'avions pas anticipé. On ne savait pas qu'il était là, le mur. Mais Dieu, lui, il le savait. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on prenne cette porte. Dieu a programmé la bénédiction. Son chemin passe par des bénédictions que nous ne nous soupçonnons même pas. Et si quelque chose occupe une place trop importante à nous, au point que cela nous semble impossible d'y renoncer, ne peut-on pas employer le mot « oh combien démodé » d'idolâtrie ? On ne parle plus d'idolâtrie maintenant. Ça, c'était avant. Mais c'est ça. Et qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? C'est faire passer les choses avant Dieu dans nos vies. Dieu ne nous a pas retirés de la société pour nous propulser dans une galaxie aseptisée. Il a dit qu'il nous laissait dans le monde pour que nous soyons quoi ? Des témoins, pas des éponges. Il nous demande de veiller à ce qui, dans nos vies, prendrait trop de place et mettrait en danger notre identité de fils et de fille. Il nous a rachetés. J'ai beaucoup aimé ce chant, le dernier chant, David. Je l'aime beaucoup déjà, mais là, je trouvais qu'il tombait tellement... Peut-être que dans nos vies, la lune nous glace, et puis le soleil, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Je ne me rappelle plus. Menace, c'est ça. Hein? Peut-être que dans nos vies, tout est déréglé. Peut-être que les conditions météorologiques de notre vie, elles sont complètement capoutes. Mais... Mon secours est en toi. Il veut le meilleur pour nous, mais il veut le meilleur de nous. Il n'a pas envie d'avoir les restes. Il veut le meilleur de nous. Il attend que nous lui fassions confiance, sans discuter, sans palabrer, parce qu'il nous aime. Alors, ce matin, je voudrais juste vous inviter, si le programme de Dieu vous convient, à lui dire oui. Et à régler vos pas pour marcher dans ses empreintes. Ne courez pas après tout et n'importe quoi. Ne courons pas, parce que je me mets dans le lot. Il y a tellement de choses qui sont maintenant aguichantes, alléchantes, avec tous ces trucs, les méthodes que nous avons, modernes et tout. On a accès à tellement de choses. Dieu, lui, n'est pas high-tech. Mais il est relation. Ayons cette relation avec lui. Et nous aurons ce qu'il attend de nous. Et je voudrais juste vous rappeler le psaume 23 dit par Dieu, juste pour nous rassurer. « Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Je te fais reposer dans des champs d'herbes vertes que j'ai choisis pour toi. Je te dirige près des rivières fraîches, les meilleures pour toi. Je te rends des forces, je te guide sur le bon chemin. Alors fais-moi confiance. Je te conduis dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. » Quand tu marches sur des routes difficiles, tu ne crains aucun mal, car je suis avec toi, c'est moi qui t'y accompagne. Ma houlette et mon bâton te rassurent. Je t'offre un bon repas sous les yeux de ceux qui te veulent du mal. Je verse mon huile parfumée sur ta tête et je te donne à boire en abondance. Oui, mon amour t'accompagnera et tu seras heureux tant que tu marcheras dans ma volonté. Et tu demeureras dans ma présence jusqu'à la fin de ta vie. Moi, c'est ça que je veux. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Alors, si c'est cela que vous voulez, bien, simplement, ayez ce dialogue avec Dieu. Hein. Écoutez-le et n'essayez pas de le faire changer d'idée pour chaque pas que vous devez faire. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour les projets que tu as pour chacun de nous. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons essayé de d'effacer la ligne blanche qui était au milieu du chemin. Pardon pour toutes les fois où nous avons essayé de te faire changer d'idée. Pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que tu ne voyais pas plus loin que le bout de ton nez. Seigneur, pardon. Et merci d'être encore notre secours. Seigneur, quand tout va de travers dans nos vies, tu es toujours là. Et nous voulons lever les yeux vers toi et recevoir de toi vraiment cette assurance que tu reprends les rênes de nos vies en main. Seigneur, nous voulons le meilleur, ce que tu as préparé pour nous, mais nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, merci pour ta